I know how it sounds.
La sex. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Hey, salut.
Hey, Max, grosse soirée.
Hey, ben oui, hein. Ben, ça arrête plus. J'ai été avec Cam dans le Spacecast, notre ami JF.
Super bon.
Ben merci, c'est gentil. Notre ami JF est tombé au combat hier.
Ben oui, c'est à son tour.
Ben c'est à son tour, puis je pense que ça frappe beaucoup de gens en
ouais,
ce moment.
Ouais, vraiment.
J'ai été frappé par ça la semaine passée. Là, ouais. JF avait l'air d'avoir des vomissements. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement.
Bon rétablissement, notre cher collègue.
Fait que, ouais, grosse soirée, toi, comment a été ta journée?
Ah, belle journée, shooting photo aujourd'hui hein, pour les animateurs. La reprise des photos, un peu de boulot côté application de rencontre, GoSeeYou. Donc, une belle mise à jour qui s'en vient. Ça va créer des petites coupures de service, mais pour le mieux, éventuellement. Donc, c'est un mal qui est nécessaire.
Va falloir que les gens se voient dans la réalité. Hein?
Ah, mais ça, ils le font déjà.
Ah oui?
Parce que j'ai un accélérateur de rencontres intégrées qui s'envoie après sans échange, qui incite les gens à se rencontrer dans la réalité.
Tout est pensé.
Voilà. Oh non, je pourrais être pas mal plus riche que ça, moi, si je voulais vraiment arnaquer les gens et les laisser dans mon app. Mais moi, je veux vraiment créer des relations dans la réalité le plus tôt possible parce qu'on sait, plus on s'éternise virtuellement, plus on a de chance de se créer des fausses perceptions chez l'autre, des idées préconçues, finalement, et de se rendre à un échange qui, finalement, va être que décevant là, dans la réalité.
Ben, je te respecte. Hein? Tu préfères créer des relations qui vont perdurer dans le temps au lieu de rouler en Lamborghini. Alors,
exactement.
C'est tout à mon avantage.
Puis récemment, il y avait des articles qui sont sortis un peu dans les médias par rapport aux apps de rencontres et les algorithmes discriminatoires et tout. Moi, j'en ai pas de ça.
Les algorithmes discriminatoires?
Des algorithmes discriminatoires. Il y a certaines applications de rencontres qui fonctionnent par des espèces de scores. Donc, selon ton profil est scoré de tel score. Donc, même s'il y a une personne qui pourrait fitter avec toi dans la réalité, qui est à 2 kilomètres de toi, ben, tu la verras probablement pas dans l'application si elle n'a pas le même score que toi.
Et le score, il est établi sur ton apparence physique,
selon,
sur tes centres d'intérêt?
Selon les gens, selon l'intérêt des gens envers ton profil et selon tes actions dans
alors
l'application.
Alors que c'est le culte de l'image. Donc, les personnes qui sont un peu moins dans les critères de beauté, dans la norme sociétale, j'imagine qu'ils sont laissés de côté.
Ben, pis c'est extrêmement négatif, surtout pour les hommes, je dirais, parce que messieurs, on dirait que vous avez la difficulté... Ben, parfois, mesdames aussi, mais surtout, messieurs, vous avez moins le souci du détail et vous avez la difficulté, on dirait, à vous mettre à votre meilleur sous forme de photo et sur les applis de rencontre.
T'es en train de dire qu'une photo en bedaine avec un saumon, c'est pas une bonne photo?
Ça, ça marche pas, là. Ça, c'est un off. Mais je sais pas pourquoi, mais on dirait que dans la réalité, quand on rencontre nos membres dans nos événements ou dans la réalité, Colin, on dirait que vous êtes plus beau.
Ouais,
vous êtes encore plus beau qu'en photo, ce qui est bien quand même, mais dans des applications discriminatoires comme ça qui vont selon... la beauté, finalement, selon les critères là, de beauté conventionnels, si on veut, ben c'est pas votre avantage. C'est ce qui est triste. Alors que moi, il n'y en a pas de ça. Moi, c'est vraiment par géolocalisation. La personne qui a été active le plus récemment, c'est elle que tu vas voir. Et ça fait en sorte qu'il y a des gens qui habitaient le même immeuble, qui ne s'étaient jamais rencontrés sur d'autres apps, qui finalement ont matché dans mon app.
C'est fou, ça. Puis on s'entend pour dire aussi que la beauté d'une personne, oui, sur papier, on peut la faire avec certains critères, certaines normes, mais en réel, là, la beauté d'une personne, ça se mesure aussi à son énergie, à ce qu'elle dégage, à son charisme, à ce qu'elle nous propose comme discours. Tout ça, ça l'influe sur la beauté de la personne. Puis ça l'influe aussi la façon dont on voit la personne.
Au-delà des critères physiques et de la beauté en photo.
Exact.
Voilà. Max, hier, ça a fait jaser beaucoup là, la belle discussion qu'on a eue avec Paul. Les gens étaient vraiment interactifs, on parlait de relations et tout. Ça va se poursuivre un petit peu ce soir, en fait, puisque j'avais envie d'inviter quelqu'un qui allait pouvoir venir nous aider à éclaircir ou comment adopter des comportements qui vont pas à l'encontre de ce qu'on voudrait dans les relations. Il y a des gens qui adoptent des comportements dans les relations qui vont carrément... s'auto-saboter ou auto-saboter la relation. Et on a avec nous, en fait, Sylvie Rousseau, qui est psychologue depuis plus de 19 ans auprès des couples et des adultes. Elle est également conférencière et auteure de plusieurs livres et elle présente une conférence virtuelle qui est gratuite demain soir sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, si je ne me trompe, elle pourra nous donner plus de détails par rapport à cette conférence-là. Mais vraiment, Sylvie va nous expliquer là, les comportements qui peuvent compromettre la qualité et la santé de votre relation amoureuse. Puis elle va aussi nous proposer des pistes pour surmonter l'auto-sabotage, justement. Bonsoir, Sylvie.
Bonsoir, Sylvie.
Et bonsoir, Mélanie et Maxime. Je suis vraiment contente d'être avec vous deux. Et quand j'ai entendu votre introduction, je me disais, eh ben, il y aurait là vraiment des belles pistes avec l'auto-sabotage pour certaines personnes dans les réseaux et dans les applications.
Ben oui, effectivement. Et les gens, en fait, ça prendrait quasiment un cours pour pouvoir utiliser les applications de rencontre correctement. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est fou.
De ne pas se tirer dans le pied, donc que ce soit en vrai ou dans les applications, on voit que certaines personnes, c'est sûr que les gens ne font pas ça consciemment, mais inconsciemment, finalement, des fois, on dit des choses, on a des comportements qui vont à l'encontre, comme ce que vous disiez tantôt, Mélanie, qui vont à l'encontre de ce qu'on veut. Fait que par la conférence de demain soir et par ce qu'on va se dire ce soir, ben j'ose espérer qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir se regarder avec beaucoup de bienveillance. Là, c'est pas de se taper sa tête, ça, moi, je crois pas à ça, mais de tourner la caméra vers nous pour dire hey, « ça m'arrive-tu des fois de me jouer des petits tours? Je veux quelque chose, puis finalement, ben je me sabote là-dedans ou je sabote le début d'une relation ou des fois une relation de longue date par des comportements et des attitudes qui vraiment mettent en péril là, la relation. »
Qu'est-ce qui fait qu'on adopte des comportements qui vont saboter? C'est la peur de l'engagement, c'est la peur de l'intimité. Qu'est-ce qui fait qu'on sabote littéralement, là, inconsciemment, une relation ou qu'on adopte justement des comportements qui sont nocifs comme ça?
Oui, ben il y en a pour qui c'est effectivement la peur de l'engagement. Hein, l'engagement, c'est que on fait le choix d'être avec quelqu'un, beau temps, mauvais temps. Là. Tu sais, on est tous les deux dans le même bateau, puis on rame. Puis des fois, il y a de la houle, puis il y a des fois que le bateau prend l'eau un peu, mais on a un désir d'être là avec l'autre dans du long terme. Fait qu'on sait qu'il va y avoir des tempêtes une fois de temps en temps, puis on va pas menacer de quitter le bateau à partir de la petite chicane qu'on va avoir. Parce que ça fragilise les relations quand on fait ça. Fait qu'il y a des gens qui vraiment ont de la misère à s'ouvrir à une relation amoureuse. Ils ont peur d'être blessés, d'être abandonnés. Des fois, ils ont été trahis. Des fois, ils ont eu des relations toxiques aussi. Hein, ça arrive. Mais aussi, il y en a qui ont peur de perdre leur fameuse liberté. Alors, quand ça commence à être engageant un peu, d'officialiser la relation, de rencontrer, par exemple, les parents du nouveau partenaire ou de la nouvelle partenaire, de discuter peut-être de l'avenir du couple, là, de faire des projets plus que le week-end prochain, ah ben là, il y en a qu'ils prennent leurs jambes à leur cou, puis l'autre personne se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Pourtant, il me semble que ça allait bien et qu'ils comprennent pas pourquoi, finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, alors que le ciel semblait assez bleu, que l'autre finisse par se désengager au tout début de la relation. Fait qu'on repousse, finalement, l'autre personne en devenant distant, en passant moins de temps, en mettant aussi un terme à la relation au moins de petits problèmes. Fait que quand on voit ça, ben les personnes qui ont peur de cet engagement-là, souvent, ben ils vont commencer avec quelqu'un d'autre. Ils disent qu'ils confondent des fois les papillons puis l'amour là. Fait quand au début c'est le fun, c'est intense puis on sent des choses, mais à un moment donné ces papillons-là, ils durent pas tout le temps. Hein? Le défi c'est de les entretenir bien sûr, mais il y en a que quand les papillons s'envolent, ils pensent que tiens l'amour est parti aussi, puis ils recommencent, comprends-tu, avec d'autres personnes.
Exact. Il y a certains adeptes de love bombing, si on veut, c'est vraiment littéralement des gens qui vont déverser des bombes d'amour et qui ont besoin justement de cet effet euphorisant-là des débuts de relation. Et après quelques semaines, dès que l'autre personne devient comme intéressée ou de plus en plus attachée, c'est un peu comme si pour eux, il n'y avait plus de défi ou encore l'effet euphorisant commence à s'estomper. Et là, ils vont littéralement disparaître ou fuir la relation et recommencer ailleurs. Donc ça, c'est des gens qui sont adeptes de love bombing.
Oui, puis qu'on parle aussi souvent de l'intimité. Hein. Moi, je trouve que les deux, la peur de l'engagement, la peur de l'intimité, ça voyage pas mal ensemble, cette affaire-là. Parce que si je veux avoir une relation à long terme, ben là, ça va demander une ouverture. Hein. C'est bien beau, là, toutes les sensations physiques que je vais sentir au début, mais il y a une ouverture au niveau du cœur à ce moment-là. Donc, de vouloir créer des vrais liens avec l'autre, d'oser se dévoiler, de donner accès à l'autre à ce qu'on pense pour vrai, à ce qu'on ressent pour vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue, mais ça évolue pas juste au niveau physique. Au niveau physique, c'est facile, cette fusion-là, au début. Mais au niveau du cœur, ben ça peut se développer petit à petit, dans le respect, dans l'ouverture, dans la confiance. C'est vraiment un beau moteur, ça, à l'engagement, le fait d'être capable de s'ouvrir au niveau de l'émotion.
Absolument. Et ces gens-là qui vont comme à l'encontre, parce qu'en fait, c'est comme s'ils souhaitaient s'engager, mais ils en sont incapables. Est-ce que ça peut être des gens qui ressentent une certaine pression sociétale, en fait, qui voudraient être en couple pour être en couple, mais qu'en réalité, ils n'en ont pas envie ou ils n'en ont peut-être même pas besoin, mais ils se forcent à tenter d'être en couple et quand vient le moment de l'intimité, ils ne sont pas capables d'aller plus loin et tout. Ça peut être une certaine forme de la part de la société, en fait, que c'est juste pour dire, moi, je veux être en couple pour être en couple, mais en réalité, ça ne me tente pas tant. Ça se peut-tu, ça?
Je pense pas qu'il y ait une seule réponse, bien sûr, à cette question-là. Hein. C'est complexe, mais oui, il y en a pour qui ils peuvent ressentir cette pression-là, ou des fois la pression de la famille aussi. Ben voyons, t'as pas encore une blonde, t'as pas encore un chum. Ben voyons, à Noël cette année ou à Pâques qui s'en vient, faut être encore tout seul. Ben voyons donc, qu'est-ce qui marche pas? Un beau gars comme toi, une belle fille comme toi, comment ça c'est tout seul? Fait que des fois, on entend ce genre de commentaires-là et ça peut mettre une pression, oui. Il y en a pour qui, ben c'est plus une estime de soi qui est chancelante, je vous dirais, Mélanie. Ah. Donc, les gens qui vont comme refuser l'amour, cette proximité-là, parce qu'ils pensent qu'ils sont pas dignes de cet amour-là, parce qu'ils ont peur de pas être à la hauteur. Alors, ils vont avoir tendance, des fois même, à saboter la relation plutôt que d'être laissé, peut-être éventuellement. Je vais prendre, moi, les devants, puis je vais laisser la relation plutôt que d'être rejeté par la personne. Fait qu'il peut y avoir quelque chose qui touche aussi l'estime de soi.
Est-ce que les gens qui adoptent des comportements d'auto-sabotage, la majeure partie du temps, sont conscients ou inconscients de ce qu'ils font?
Moi, je vous dirais, Maxime, que la plupart du temps, c'est inconscient. Je pense pas qu'il y ait des gens qui font exprès pour être pas bien en vie, là, tu sais. Si vraiment je veux avoir une relation amoureuse puis que c'est important pour moi, puis que je me dis, mais voyons, ça marche jamais. Comment ça que ça marche pas, moi? Ben, il y a peut-être cette invitation-là à aller regarder dans nous autres. Et c'est là l'importance, je trouve, des émissions comme la vôtre, la conférence comme celle que je vais donner demain soir, pour essayer de ralentir un peu puis dire, ben, y a-tu quelque chose que moi, je peux changer? OK? Ça se peut que je tombe pas sur un bon partenaire ou une bonne partenaire une fois de temps en temps, mais si c'est systématiquement comme ça, il y a une invitation à retourner la caméra vers soi, comme je dis souvent, pour aller voir, ben, y a-tu des petits tours que je me joue? Donc, oui, dans les peurs qu'on a nommées, dans les exigences qui sont élevées. Ça, je vous dirais, et Mélanie, vous parliez tantôt d'un comportement plus féminin. Ça, les exigences élevées, je vous dirais, puis je ne veux pas généraliser, mais c'est ça que j'entends souvent dans mon bureau, plus nous autres, les femmes, qu'on fait ça. OK, qu'on voudrait donc que les choses marchent à notre façon. Le gars, on veut qu'il parle, mais quand il parle comme ça, on n'aime pas ça. On voudrait qu'il fasse pas ci, qu'il fasse plutôt comme ça, qu'il s'habille de cette façon-là, pas de cette façon-là. Pas un contrôle malsain, mais quelque chose quand même qui est exigeant. Et là, à ce moment-là, ben, ça peut faire en sorte que si j'ai une liste d'épicerie tellement longue sur mes exigences, ben, ça va faire en sorte que ça devient pas agréable pour soi, parce que quand j'ai des exigences comme ça, c'est pas très léger, mais c'est pas fun non plus pour le ou la partenaire. Donc, tu sais, tout ce qu'on impose là dans la façon que la maison doit se tenir, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans dire, hey, on peut-tu comme voyager plus léger là, puis on peut-tu comme laisser l'autre vivre là, laisser l'autre respirer. C'est pas grave si c'est pas fait à ma façon. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose, je pense, qu'on a à regarder, et pas juste pour le couple. Ça, je vous dirais que c'est beaucoup aussi dans notre relation avec nous autres mêmes. C'est beau de rechercher l'excellence, là, mais quand on est dans la démesure, ça peut devenir vraiment très accablant au sein d'une relation de couple.
Puis, je vois quelque chose qui est typiquement féminin, là, lorsqu'il y a un nouveau-né, par exemple, qui arrive dans la famille, finalement. On le sait, hein, c'est tout qu'un chamboulement chez le couple et tout. Et souvent, madame se sent surmenée, complètement dépassée par la situation avec l'allaitement et tout, et demande, en fait, elle voudrait bien que monsieur participe, mais on dirait qu'une fois que monsieur participe, on a tendance à vouloir repasser en arrière puis vouloir le reprendre. Puis donc, ça va comme à contre... c'est comme
à contre-courant.
À contre-courant de ce qu'on souhaiterait. C'est comme si on se dit dépassé par la situation, on voudrait avoir de l'aide et à partir du moment où monsieur essaie, ben là, on veut le reprendre et on le voit, là, ça, là, vraiment, chez beaucoup de femmes et des hommes qui se sentent complètement dépassés aussi, qui se disent, ben là, je voudrais bien l'aider, mais il est toujours en train de me reprendre puis il est tout le temps en train de chialer. Donc, ça, est-ce que c'est quelque chose dans votre conférence qu'on peut peut-être voir ou est-ce que c'est des services que vous offrez chez les couples qui deviennent nouveaux parents comme ça, qui ont des défis, là, au niveau des tâches ou au niveau de. Des nouvelles,
oui, tout à fait. Vous avez raison, Mélanie. Moi, je vois ça très régulièrement dans mon bureau. Les femmes se plaignent de pas avoir assez. Moi, j'aime pas ça appeler ça de l'aide parce que quand on demande de l'aide, c'est comme si c'est un service qu'on rend à quelqu'un.
Okay?
Alors que quand on a des enfants puis on a une maison, ben on partage les responsabilités là. Donc, mais oui, les femmes vont souvent se plaindre du fait que monsieur ne s'implique pas assez. Et quand monsieur s'implique, ben c'est pas comme ça qu'on change la couche du bébé. Puis voyons donc, quand c'est le temps du bain, ben non, pas comme ça. Tu devrais le prendre comme ça. Fait que moi, ce que les hommes finissent par me dire quand je suis seule avec eux autres, c'est si elle est si fine que ça, ben qu'elle fasse donc. OK? Mmh. Parce que là, le gars, ça y envoie pas une belle image de compétence parentale quand on est dans le rôle de père ou dans les autres domaines, c'est la même affaire. Donc, si on se fait reprendre sans cesse, c'est pas bon pour l'estime, c'est pas bon pour la confiance. C'est comme si la femme, à ce moment-là, sait plus que lui qu'est-ce qui est bon, mettons, pour le bébé, alors qu'il apprenne à être parent en même temps, là. Ça fait que, donc, et la femme se plaint, dire oui, je suis en surcharge, j'ai l'impression de pas y arriver, je suis fatiguée. Puis lui, il fait comme, ben oui, mais elle me reprend tout le temps, donc c'est plate. Fait que oui, ça passe par revoir nos exigences. C'est pas grave si, des fois, on voit ça même quand les enfants, ils vieillissent, là. Hey, non, tu y mettras pas ce petit kit-là de même, ça matche pas pantoute. Hey, c'est pas grave, ça, là. OK, on peut-tu, comme, être capable de vivre avec le regard que les autres vont porter sur notre enfant, même si le petit kit n'est pas parfait, là. Fait que de revoir, oui, notre lien avec ces exigences-là, avec un perfectionnisme qui, finalement, nous empoisonne la vie. C'est pas juste au partenaire que ça fait du tort, c'est à soi-même quand on a vraiment ces exigences-là à bout de bras.
Effectivement. Et quand on parle d'exigences trop élevées, on voit ça beaucoup aussi chez les célibataires qui ont tendance à désirer avoir un partenaire ou une partenaire qui aurait tel critère. Et moi, ce que je leur dis, puis je l'ai déjà dit en onde aussi, à partir du moment où tu souhaites avoir une personne qui détient tel truc, ben lis ta liste de critères jusqu'à ce que tu deviennes toi-même cette personne-là. Parce que souvent, les gens ont tendance à exiger quelque chose chez l'autre qu'ils sont même pas capables d'offrir eux-mêmes. Ça, il faudrait aussi faire quelque chose pour ça. Là, ça n'a pas d'allure qu'on soit toujours en train de désirer quelque chose de plus que ce qu'on pourrait offrir nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose que vous abordez aussi dans votre conférence.
Oui,
dans votre
que j'aborde aussi avec les clients, c'est que quand les clients sont célibataires, comme vous dites, Mélanie, puis qu'ils voudraient d'une nouvelle relation, moi, ce que je leur dis, c'est quels sont les critères fondamentaux, là? Des choses sur lesquelles, ça, il n'y aura pas beaucoup de compromis parce que ça irait à l'encontre de vos valeurs fondamentales. Et ça, on s'entend, là, c'est pas une liste d'épicerie. Il y en a peut-être 4-5 de ces critères-là qui sont vraiment connectés avec des besoins profonds, avec des valeurs profondes. Fait que si ce que je veux, c'est une liste d'épicerie avec 20 critères, ben ça se pourrait bien que finalement, juste dans cette façon de penser-là, que ce soit de l'auto-sabotage. Je pourrais pas avoir quelqu'un qui va répondre à tout ça. Puis on doit savoir, déjà, en tant qu'adulte, qu'on est responsable de combler nos besoins. Si je choisis d'être en couple, je veux que mon partenaire ait de la sensibilité, bien sûr, à l'égard de mes besoins. OK? Si je veux pas me soucier des besoins de l'autre, ben je reste célibataire. Mais c'est pas à l'autre à combler tous mes besoins.
Non,
ma responsabilité, c'est de les nommer. Puis après ça, d'essayer de trouver une zone où est-ce que, mutuellement, on va au moins en partie combler les besoins l'un de l'autre.
Faire de l'autre un plus à notre vie, à notre petit bonheur et pas un manque à combler.
Tout à fait. Que l'autre m'aide à évoluer. Ce qu'on entend souvent présentement, puis ça me rejoint beaucoup, c'est d'être la meilleure version de moi-même.
Ouais.
Okay, pas la parfaite, là, mais moi, là, avec qui je suis, avec mes besoins, avec mes valeurs, avec mes limites, avec mes forces, avec mes faiblesses, ben c'est ça que j'amène dans une relation. Et qu'est-ce que je veux de la part de mon partenaire? Ben c'est qu'il y ait, bien sûr, un fit, hein, assez d'affinité pour pas qu'on soit tout le temps en guerre, mais il va y avoir des différences, et les différences, c'est riche. Si je veux avoir une copie conforme de moi, bon, des fois, ça me tomberait ses nerfs pas mal, hein, parce que j'ai des belles forces, mais des fois, il y a des petites affaires qui retroussent. Ben, je veux pas avoir mon clone. Je veux avoir quelqu'un qui va m'aider à devenir une meilleure personne, qui va m'accompagner dans le non-jugement. Il me semble que c'est ça, une belle relation de couple. Là. C'est pas d'être parfait, mais c'est d'être capable de se parler dans le respect, puis d'essayer de trouver ensemble des solutions qui vont au moins faire partie, faire l'affaire des deux en partie.
Tantôt, vous nous avez dit que les comportements d'auto-sabotage s'opéraient dans l'inconscient, ce qui veut dire que inéluctablement, on s'en rend pas compte. Donc, en conséquence, ça se peut vite qu'on se retrouve pris dans un engrenage, qu'une idée en amène une autre, qu'une action en amène une autre. Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place pour faire un stop puis se rendre compte de nos agissements avant qu'il soit trop tard? C'est-à-dire se sortir de cet engrenage-là, revenir à la réalité et faire une espèce d'introspection sur nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour faire ça?
Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est de ralentir. On est sur le pilote automatique, bien souvent. On fait les choses de façon machinale.
Ouais.
Et quand on est dans l'inconscient, ben c'est là, c'est le pilote automatique qui nous guide. C'est pas qu'on n'a pas de petits signes. Moi, j'ai l'impression que bien souvent, quand on s'écoute pour vrai dans nous autres, quand on écoute nos émotions, quand on écoute notre discours, des fois, ça passe, mais ça passe vite. Fait que si je suis sur le pilote automatique, je les verrai pas, ces affaires-là. Mais si je ralentis, OK, puis des fois que je m'arrête, puis que je fais comme, un petit peu, OK, qu'est-ce que moi, je veux pour vrai? Qu'est-ce que je ressens dedans de moi? OK, que je commence à nourrir ma relation avec moi-même. Donc, si avec moi-même, je sais un peu plus qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, OK, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas, bien, au tout début d'une relation avec l'autre, quand vous parliez des célibataires, Mélanie, tantôt, au tout début d'une relation avec l'autre, bien, je vais être capable d'aller voir ça dans les premières rencontres. Pas le premier soir. Premier soir, on débarque pas puis on met pas tout sur la table. On connaît pas l'autre, là. Fait qu'on va se garder une petite gêne, là, pour parler de nos traumatismes puis de nos blessures profondes puis tout ça, là. On n'est pas là au début. Mais quand ça fait quelques fois, ben là, on peut voir avec l'autre qu'est-ce que moi je veux pour voir s'il y a de la réceptivité de la part de l'autre.
Ouais.
Moi, j'aime ça beaucoup jaser, comprenez-vous, parler des vraies affaires puis tout ça, puis que je m'aperçois qu'à chaque fois que je veux amener un petit sujet comme ça, mon nouveau partenaire fuit. Ben là, je peux dire si la communication, c'est bien important pour moi, ben avec lui, est-ce que je vais retrouver assez d'éléments pour qu'on puisse communiquer d'une façon satisfaisante? Fait que ça nous amène à nous connaître beaucoup, pour répondre à votre question, Maxime, d'être vraiment à l'écoute de nous pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. OK? Puis essayer de voir clair dans mon propre jeu à moi. OK, c'est où est-ce qu'ils sont mes failles, où est-ce qu'elles sont mes qualités et mes forces. Puis après ça, ben quand on met ça sur la place publique comme ce soir, après ça, on prend un petit temps d'arrêt puis dire, OK, est-ce que moi, je me reconnais dans ce qui vient de se dire, là?
Mm-hmm.
Comment ça, je me retrouve souvent dans le même type de relation? On dirait qu'il y a un pattern là-dedans. OK, pour que là, on ralentisse puis que si ça passe vite dans notre tête puis dans nos émotions avant, ben qu'on ait quand même une petite prise.
Je sais pas si vous allez pouvoir me répondre à ça, mais dans mon service de rencontre select, j'accompagne des gens là pour qui je cherche one-on-one. Tu sais, je cherche vraiment l'amour pour eux personnellement et tout. Et là, j'ai un client à qui j'ai présenté quelqu'un et avec qui vraiment ça se passe super bien. Mais lui, il a un petit traumatisme d'une de ses dernières rencontres, pas avec moi, mais avec une autre personne qu'il a rencontré comme ça là sur une autre application. Et la personne, en arrivant dans l'intimité, lui a fait peur qu'elle aimait les golden shower, OK? Et lui,
bon,
lui était pas du tout réceptif à ça et tout. Et là, il me demandait, Il dit, parce que moi, là, il dit, des trucs kinky puis des trucs olé olé, je suis pas tellement ouvert au lit. Il dit, à partir de quand est-ce que je dois aborder le sujet avec la personne? Parce qu'il dit, c'était vraiment mal à l'aise et vraiment gênant lorsque c'est arrivé avec l'autre personne. Donc, dans ce cas-ci, la relation, ils ont déjà eu au moins 3 rencontres. Ils se sont embrassés à la dernière. À partir de quand est-ce qu'on peut parler d'intimité ou de... Moi, ce que je lui ai proposé, c'est de dire, hey, regarde, tu pourrais l'aborder en riant, dire « Hey, je sais pas si toi, t'as des goûts particuliers, mais moi, il m'est arrivé une affaire que j'ai trouvée spéciale. » Ou je sais pas à partir de quand est-ce que vous conseillez d'aborder le sujet de l'intimité ou est-ce qu'on devrait attendre qu'il y ait une première séance d'intimité avant d'aborder le sujet? Ou selon vous, est-ce qu'il y a un moment idéal pour en parler?
Je pense pas qu'il y ait un moment idéal, mais je pense que s'il y a des malaises comme ça, ça peut être des beaux moments, après quelques rencontres, de faire comme, garde, moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça, ou j'ai déjà vécu une situation, oui. Puis j'aimerais juste ça comme de jaser, de tel... Comprenez-vous, de pas aller dans la profondeur, mais juste comme dans l'ouverture. Donc, j'ouvre sur... Ben, il y a des affaires, moi, qui me rendent un petit peu mal à l'aise ou avec lesquelles je suis moins bien. J'ai pas envie tout de suite d'en parler avec toi, mais j'aimerais ça éventuellement qu'on puisse en jaser. Comprenez-vous, pour voir si mon désir à moi, parce que là, on parle d'intimité émotionnelle à ce moment-là, ok, d'ouvrir sur quelque chose d'intime comme ça, pour voir si l'autre va faire comme, ah, ok, ben oui, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que là, présentement, ce serait peut-être prématuré d'aller dans ces eaux plus profondes-là, mais oui, je veux que tu saches que j'ai de l'ouverture, moi aussi, pour parler des vraies affaires, parce que là, on est dans parler des vraies affaires. Ok, oui. Fait qu'on peut-tu y aller comme doucement comme ça, ok, de faire comme, ben il y a des choses, hein, on n'est pas rendu à l'étape toi et moi de se dévoiler de tout au tout. De toute manière, je pense que chaque personne a son petit jardin secret, mais d'y aller d'une façon comme respectueuse de soi et de l'autre. On est en train à ce moment-là, selon moi, de tâter le terrain pour voir s'il va y avoir de la place à l'intimité émotionnelle dont on parlait tantôt. Et si pour moi l'intimité émotionnelle est importante, puis que j'ose amener ça, je vais voir si l'autre c'est aussi important pour elle ou pour lui. Est-ce que l'autre va fuir? Est-ce que l'autre, je parle de ça, puis là, première nouvelle que je sais, on est rendu qu'on parle des érables qui coulent, là. Donc, il dit, mais mon Dieu Seigneur, à chaque fois que j'ouvre sur quelque chose d'intime, on dirait que mon ou ma partenaire m'amène ailleurs. Oh, qu'est-ce qui se passe là?
Ouais.
OK, donc d'y aller, moi je dirais, encore une fois, ça nécessite de se connaître soi, mais d'oser, oser à petite dose, comprenez-vous? Parce que si c'est là de toute manière à l'intérieur de moi et que j'en parle pas, ça risque d'avoir un impact dans la relation avec l'autre.
Madame Rousseau, Dr Rousseau, en fait, on va tout de suite aller à la pause et au retour, on va donner tous les détails sur comment s'inscrire à la conférence qui est virtuelle et gratuite pour les couples, pour les célibataires, pour tout adulte qui voudrait travailler sur lui ou découvrir comment mettre un terme à l'auto-sabotage en relation. Donc, restez avec nous, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice et ce soir, on est en compagnie de Sylvie Rousseau, psychologue qui aide les couples, les adultes, les solos, qui aide tout le monde finalement, et ce depuis 19 ans. Elle est également auteure et conférencière. Mais juste avant de poursuivre avec elle et de vous parler de la magnifique conférence virtuelle qui aura lieu demain soir, le 27 mars, eh bien, je veux vous parler de Planète X. Si vous trouvez que la game manque d'action, que vous voulez améliorer votre moyenne au bâton, eh bien, chez Planet X, vous pourrez trouver tous les conseils et les outils pour frapper un coup de circuit.
Oh! Mets la top corner, mon chum.
Donc, vous le savez, hein, chez Planet X, la mission, c'est de trouver le produit adapté à vos besoins. C'est toujours au meilleur prix. Donc, si vous êtes en panne de désir, eh bien, vous pourriez peut-être aller faire un petit tour là, chez Planet X et trouver ce qui pourrait vous aider finalement à retrouver la libido, à réactiver ce petit désir-là, puis allez-y avec votre partenaire.
Oui.
Ça peut être le fun comme activité. Puis en plus, il ferme à 22h. Pas mal tous les soirs. Là. C'est ouvert plusieurs soirs par semaine jusqu'à 22h. Donc, ça vaut la peine, en vue d'une soirée coquine ou un moment en solo, là, chez Planet X, toutes L'équipe est là, éveille tard pour vous. Donc, pour une santé sexuelle épanouie, pensez Planetix, une classe à part depuis près de 30 ans. Planetix, 6 succursales, Laurier-Québec, Galerie de Capitale, Beauport, Boulevard Charest, Lévis, ainsi que sur Franck Carrel. Et pour vos achats en ligne, monplanetix.com.
Bonsoir, elle est partie!
De retour avec notre chère invitée, Sylvie Rousseau, avec qui j'adore échanger, vraiment. Vous avez une façon de verbaliser les choses, de communiquer. Bref, c'est super intéressant. Et là, vous offrez à tout le monde, et je vois qu'il y a déjà plus, il y a bientôt 200 personnes intéressées là, sur l'événement Facebook qu'on a partagé, que vous pouvez retrouver sur nos différents réseaux, que ce soit sur ma page Facebook, sur la page de Célibataire Québec, sur la page de Sylvie Rousseau, et même partagé au masculin.
Masculin. Oui, Partage au masculin, c'est un organisme régional qui offre des hommes, des services aux hommes de partout en Chaudière-Appalaches. Et Partage au masculin, c'est offert cette série de conférences-là, parce que j'en fais une par mois, pour les couples, parce que les hommes qui consultent, il y en a un gros, gros pourcentage qui le fait en raison de problèmes importants au sein de leur couple ou à la suite d'une rupture. Et en rendant ce type de conférences-là accessible aux hommes et aux femmes, ben on veut travailler en prévention, finalement. On veut aider les hommes et les femmes à améliorer leur relation de couple et à rester ensemble. C'est ça qu'ils veulent.
Puis on sait, on dirait qu'on a beaucoup moins d'aide, en fait, des centres communautaires ou des services d'entraide pour les hommes. On dirait qu'il y en a beaucoup moins que pour les femmes. Donc, avec Partage au masculin, on va d'ailleurs les recevoir en entrevue à la fin du mois. Donc, à la fin du mois d'avril, en fait. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et c'est grâce à eux que je vous ai découvert, Sylvie.
Oui, tout à fait, parce que c'est Partage au masculin qui fait la promo de toutes les conférences. Alors, messieurs, si vous ne connaissez pas Partage au masculin, allez faire un petit coucou sur leur site. Là, il y a vraiment des beaux services. C'est gratuit, c'est confidentiel. Et Partage au masculin est là depuis, mon Dieu, 26-27 ans, là, quelque chose comme ça.
Très intéressant.
Donc, ils ont toute une belle expertise auprès des hommes. Fait que pour la conférence de demain, vous pouvez vous rendre sur le site de Partage au masculin. Vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook Sylvie Rousseau, psychologue, ou ma page personnelle. Peu importe, c'est que inscrivez-vous et de cette façon-là, vous allez juste avoir un petit rappel là, demain au courant de la journée, puis quelques minutes avant la conférence. Les conférences sont toujours à 7 heures, durent une heure et il y a un petit temps d'échange à la fin. Là. Donc, questions, commentaires aussi. Fait que joignez-vous à nous. C'est vraiment des beaux moments là, de réfléchir ensemble sur des sujets comme celui-là. Et l'autosabotage, c'est vraiment un nouveau sujet que j'aborde pour la première fois lors de ces conférences-là. Fait que, et jusqu'à maintenant, ça suscite beaucoup d'intérêt d'après ce que je vois passer sur les pages. Et à la suite de l'entrevue de ce soir, j'imagine aussi qu'on va avoir rejoué encore beaucoup plus de gens là, grâce à vous.
Oui,
alors, merci
vraiment
beaucoup, beaucoup de m'avoir invité. Ça a été vraiment le fun de parler avec vous deux. J'aime ça, ce genre d'entrevue-là, où est-ce qu'on jase, là, où est-ce que c'est pas juste une question-réponse, mais où est-ce qu'on est vraiment en train de d'échanger des points de vue sur des sujets comme ça.
Mais c'est vraiment super intéressant. Puis, dans la conférence de demain, dans le fond, si on y va avec les sujets principaux, ce sera vraiment la peur d'engagement, peur d'intimité, faible estime de soi, exigence trop élevée, ne pas communiquer clairement, rechercher les conflits et prendre l'autre pour acquis.
Tout à fait. Et dans la deuxième partie, Mélanie, ça va être quelles sont les stratégies pour surmonter l'autosabotage. Donc, une première partie où est-ce que je définis chacun de ces thèmes-là, comme on le fait ce soir. Et dans l'autre partie, on va aller un petit peu plus loin dans les pistes d'action pour essayer d'améliorer ces comportements-là qu'on peut avoir qui nous amènent finalement à agir à l'encontre de notre bon intérêt sur le plan amoureux.
Excellent. Et vous avez écrit des livres également. Où est-ce qu'on peut se procurer ces livres-là et sur quoi portent-ils?
Ah oui, merci de m'offrir cette possibilité-là. J'en ai un qui est sorti l'année passée, qui est sur la colère. Fait que ça, si ça vous tente qu'on en jase à un moment donné, la colère des hommes, la colère des femmes, donc au niveau adulte, parce qu'il y avait plusieurs livres qui s'intéressaient à la colère chez les enfants et chez les ados, mais peu au niveau des adultes. Alors, ça s'appelle « Apprivoiser sa colère », qui est aux éditions Erol. L'année d'avant, j'en avais fait un sur l'anxiété, donc « Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie ». Alors, des stratégies aussi très concrètes pour apprendre à mieux vivre avec l'anxiété pour les gens qui en souffrent. Et par le passé, ben j'en ai eu un sur le couple, justement, conseil de psy pour elle et lui. J'en ai fait un avec une collègue sexologue plutôt, Bianca Champagne, sur les astuces pour un mieux-être au niveau psycho et sexo. Et il y a très, très longtemps, il y a plus de 10 ans, mon premier était sur la résilience.
Wow! C'est tellement intéressant.
Puisqu'on vous a au bout du fil, je suis curieux de vous entendre sur un sujet. Depuis quelques années, on assiste à la prolifération des coachs de vie. Hein? J'ai un peu tout et rien contre les coachs de vie. Je pense que ça répond à un certain besoin au sein de la population. Il y a des gens qui adhèrent à ces conférences-là qui sont données par des coachs de vie. C'est là que je voulais m'en aller. Qu'est-ce que vous pensez de des conférences qui sont offertes par des coachs de vie, souvent sans trop de formation, où est-ce qu'on fait payer les gens, alors que vous, de votre côté, vous êtes une psychologue qualifiée, une vulgarisatrice de talent, une psychologue émérite qui a écrit plusieurs ouvrages et vous offrez des conférences qui sont essentiellement gratuites. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression, le monde dans lequel on évolue présentement?
Bien, c'est sûr que ce soit au niveau des conférences ou que ce soit en intervention, l'important, c'est que les gens fassent des recherches. Un petit peu de recherche, là. Hein? On n'est pas obligé de faire une recherche exhaustive, mais pour savoir qui est devant nous. OK, la personne qui est là, est-ce que c'est une personne qui a été, surtout au niveau de la relation d'aide, là, surtout si vous allez en psychothérapie, là, parce que, bon, le terme de la psychothérapie, c'est protégé, mais il y en a maintenant qui ont trouvé d'autres appellations, dont coach de vie. Fait qu'il peut y avoir des coachs de vie qui reposent, dont l'expérience repose sur une expérience, sur une expertise, sur des connaissances scientifiques. Puis il y en a d'autres, mais qui s'improvisent. OK, donc il faut juste faire attention parce que quand on se confie à quelqu'un, on confie notre vulnérabilité, on confie des blessures, on confie des choses très intimes. Et ça demande, oui, des connaissances et ça demande que la personne soit capable de nous accompagner correctement. OK, pour pas qu'après une rencontre, ben qu'on soit encore plus chamboulé. Parce que la personne va pas nous avoir bien accompagné là-dedans.
Mais c'est ça. Est-ce que vous diriez que, juste avant de vous entendre sur les conférences, est-ce que vous diriez qu'il y a un danger d'avoir un suivi avec un coach de vie qui est sous-qualifié? Parce qu'en termes de psychothérapie, ça peut rapidement devenir dangereux, si je ne m'abuse.
Ben, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller du côté de l'Ordre des psychologues, parce que c'est l'Ordre des psychologues qui émet les permis de psychothérapeute. Alors, moi, je suis psychologue et psychothérapeute, mais il y a des travailleurs sociaux qui sont psychothérapeutes, il y a des sexologues qui sont psychothérapeutes. Donc, juste d'aller voir si... Parce qu'un ordre professionnel, c'est là pour protéger le public. Alors, allez juste voir là, si la personne à qui vous confiez votre intimité et votre souffrance a les qualifications là, pour bien vous accompagner là-dedans.
C'est quand même difficile, par exemple, pour ces gens-là. On dirait que, on va être honnête, là, on a de la difficulté. On dirait avoir un rendez-vous avec un psychologue qui fait partie de l'ordre et tout. Donc, c'est peut-être une voie facile pour eux de se tourner vers ces gens-là. Donc, ce serait vraiment de prendre peut-être des références ou d'être conscient là, que ça ne peut pas être vécu comme une thérapie là, avec ces coachs de vie-là. Et il faut en prendre et en laisser, finalement, de ce qu'on va aller chercher comme information.
Puis vous avez raison, Mélanie, c'est très difficile à l'heure actuelle dans le contexte, depuis la pandémie, je vous dirais, d'avoir des rendez-vous avec des psychologues. Et tout le monde se plaint de ça, notre ordre professionnel en premier. Alors, les gens sont... Il y en a qui sont en souffrance, qui cherchent, qui trouvent pas. Et quand il y a des offres de services comme ça, ben ça peut être tentant pour dire, j'ai essayé dans le réseau public, j'ai essayé dans le réseau privé, les listes d'attente sont interminables. Puis tiens, il y a cette personne-là qui a l'air d'être pas pire, mais au moins, si vous faites confiance, prenez donc des références. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez qui est allé voir cette personne-là?
Exact.
OK, puis pas juste une ou deux fois, là, et de voir, à qui vous avez affaire pour vrai. Non pas que les coachs de vie, je vais pas toutes les mettre dans le même panier puis dire que c'est péché mortel, cette affaire-là, mais juste d'être prudent. Je pense une saine prudence, là, pour voir à qui on a affaire.
Exact. Et vous présentez d'autres types de conférences? durant l'année ou vous concentrez
ouais,
seulement
ben, avec partage au masculin, c'était vraiment au niveau des couples, là, parce qu'on agit au niveau de la prévention, comme je vous disais tantôt. Oui. Mais au niveau du grand public, ben, je réponds à toutes les demandes. Donc, des fois, ça peut être sur, bon, bien sûr, l'anxiété, ça peut être sur la colère, ça peut être sur la confiance en soi, prévenir l'épuisement professionnel. Bon, donc, des trucs comme ça. Donc, hein, je suis une psychologue généraliste, mais j'ai quand même des champs de spécialité. Et à ce moment-là, ben, ça me fait plaisir d'aller rencontrer les gens. Ça se fait beaucoup de façon virtuelle depuis la pandémie, mais je me rends aussi en personne et je réponds aux demandes, là, si des gens veulent organiser des conférences. Écoutez, allez voir sur mon site et entrez en contact avec moi.
Je vois les gens là, nous demander, est-ce qu'il vous reste de la place? Est-ce que vous prenez des nouveaux patients? Vous êtes complète, hein, pour le moment?
Non, c'est ça. Exactement.
D'accord. Donc, pour vous rejoindre, sylvierousseaupsychologue.com, c'est votre site web. Vous êtes également présente un peu partout là, sur les réseaux sociaux. Pour la conférence de demain, vous pouvez aller dans la section événements, que ce soit sur la page Facebook de Sylvie Rousseau, de Partage au masculin, de célibataire-québec.com ou de Mélanie Trudel. Vous allez voir dans la section événements et vous allez pouvoir y trouver l'événement qui a été partagé là, sur toutes nos pages et dont près de 200 personnes déjà vont participer. C'est incroyable, c'est super.
Wow, c'est vraiment bien. C'est une belle vitrine. Merci beaucoup parce que le but de ces conférences-là, comme le but de votre émission, c'est de sensibiliser les gens. Alors, plus qu'on est à être connecté à soi, à se poser les bonnes questions, à réfléchir, ben, je pense que ça nous aide à améliorer notre qualité de vie. Hein? C'est ça le but.
Exactement. Merci beaucoup, Madame Rousseau, d'avoir accepté cette belle entrevue aujourd'hui avec nous. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous.
Donc, merci à vous deux. Ça a été un plaisir vraiment partagé.
Vraiment. Donc, on le répète, conférence gratuite sur le couple et l'auto-sabotage dans votre couple demain à 19h. Vous vous inscrivez via l'événement Facebook qui est disponible là, sur les différentes pages célibataire-québec.com, Sylvie Rousseau, Partage au masculin. Donc, merci, Sylvie Rousseau, psychologue.com. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Ah, c'est tombé le fun. Dès que j'ai parlé avec cette femme-là, je savais qu'on allait avoir quelque chose d'intéressant à présenter aux auditeurs. Puis, j'ai très hâte également de parler avec Partage au masculin. Là, je vous le dis, là, ça va être incroyable. Surtout que beaucoup de gens nous en ont fait part. Il n'y en a pas de service pour les hommes. Ou en fait, il y en a, mais ils ne sont pas publicisés, on dirait.
Effectivement.
Oui. Donc, non, ça va être super intéressant. Donc, très heureuse de l'avoir eu avec nous aujourd'hui. Mais moi, Max, je suis curieuse.
T'es curieuse?
Ouais.
T'es toujours curieuse.
Toujours curieuse. As-tu déjà eu des comportements d'auto-sabotage?
Hey, moi, je pense que je suis passé ceinture noire en comportement d'auto-sabotage.
C'est vrai?
Ouais, je te rappelle que j'ai eu des graves problèmes de dope dans la vie, moi. Fait que si c'est pas de l'auto-sabotage, ça, je sais pas ce que c'est. Tu sais, quand t'as un problème de dope, t'es conscient jusqu'à une certaine mesure que t'as un problème de dope, mais tu continues quand même d'en faire parce que, bon, c'est le propre de l'addiction. Mais ouais, je me suis auto-saboté, moi, à plusieurs reprises dans la vie. Peut-être que, non seulement dans mes relations de couple, mais aussi dans mon parcours professionnel, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Peut-être que des fois, ça va trop vite, puis on a le syndrome de l'imposteur, puis on a l'impression qu'on n'est pas à la place où on devrait être. Fait que sans le savoir et sans s'en rendre compte, parce que, comme Mme Rousseau nous l'expliquait, c'est inconscient, on s'auto-sabote, puis on s'auto-kick d'un gosse, puis on se met des bâtons dans les roues parce que on n'a pas l'impression qu'on devrait avoir ce qu'on a, puis on n'apprécie pas la vie pour ce qu'elle nous donne.
Ah, ouais.
Des fois, c'est bizarre, hein? C'est pernicieux, je trouve, comme comportement. Mais ouais, ça m'est arrivé souvent, puis ça m'arrive encore souvent aujourd'hui. Je vais être bien franc avec toi. Ouais, ouais. C'est quelque chose auquel je porte énormément attention, mais c'est pas évident, man. C'est vraiment pas évident, parce que des fois, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte quand, malheureusement, il est trop tard. Puis là, tu te dis, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ah, OK, c'est parce que j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Des fois, c'est très, très étrange. C'est étrange de manœuvrer là-dedans. Je suis moins pire que j'étais à l'époque, aujourd'hui. Mais à tout le moins, dans mon couple, ça, je suis quand même fier de pouvoir dire que c'est quelque chose de réglé.
C'est ça, donc dans ton couple,
ouais, dans mon couple, ça, c'est réglé, mais...
Tu l'as déjà fait.
Tu devrais pas sacrer, je m'excuse! Mais hey, dans le passé, non, c'était incroyable.
Ah ouais.
Oh, oh, ouais, ça avait pas de sens. Là. Parce que je me disais, hey, comment une femme comme ma blonde peut aimer un gars comme moi? Je dois pas mériter quelque chose. Puis là, je tombais dans des analyses beaucoup trop profondes pour...
Mais vous êtes deux personnes extraordinaires.
Arrête donc, c'est trop
gentil.
C'est vrai. Mais
c'est vrai que parfois, on a tendance à se voir moins, on a tendance à avoir notre partenaire plus, plus auto, tu sais.
Oui, puis je pense que ça va beaucoup avec l'estime de soi aussi, puis au regard qu'on se porte.
Oui.
Je sais pas, j'ai struggled avec ça pendant assez longtemps. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entretenir des comportements d'auto-sabotage?
Bien, je pense que, en fait, c'était oui, quand j'étais justement le célibataire et que je pouvais avoir là, des personnes potentiellement intéressantes. C'est comme si j'étais pas capable d'aller plus profondément dans la relation, l'intimité, mais probablement que j'étais juste pas prête, là. Mais je sabotais dans le sens que, tu sais, j'inventais des raisons pour pas aller au rendez-vous, des trucs comme ça, puis je laissais aller ça. Mais.
Puis à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des compagnons?
Oui.
Qui se sont auto-sabotés ou qui ont brisé votre relation sans s'en rendre compte?
Oui, deux fois des relations, justement, qui dans lesquelles on détermine, mettons, les limites.
Ouais.
Et c'est des personnes qui ont un trouble d'opposition, si on veut, et qui ont besoin de dépasser les limites. Donc, c'est comme si j'avais beau étirer l'élastique, fallait toujours que ça aille plus loin. T'sais, avec un en particulier, on a tenté le couple ouvert et le seul règlement, c'était, pas le seul, mais bon, on se protège évidemment, on se le dit, on dit à l'autre qu'on a quelqu'un, mais on retourne pas vers un ex ou une ex.
Okay.
Donc, lui avait carte blanche dans toutes les possibilité de rencontre, puis y retourner vers quatre ex.
C'est bien étrange, mais, ça.
C'est vraiment étrange.
Mais c'est une condition fascinante qui est celle de toujours transgresser l'interdit parce que il y a quelque chose d'excitant, je ne sais pas, tu joues avec le feu.
Ouais, la peur de se faire prendre, c'est excitant.
La peur de se faire pogner, exact.
Puis tu vois l'autre que je savais infidèle, mais finalement le couple ouvert, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas pour moi, je le faisais pas pour les bonnes raisons, je le faisais tout simplement dans le but de tenter de me protéger d'une certaine forme de trahison. Donc dans l'autre relation dans laquelle j'ai essayé, c'est une personne que je savais infidèle avec d'autres partenaires, donc je lui ai proposé couple ouvert. On se le dit, si on voit quelqu'un, l'autre personne doit savoir et on se protège. C'était les trois règlements. Et lui, il n'a pas respecté l'autre doit le savoir. Donc, durant quelques mois, on était deux. Il voyait deux personnes alors qu'il était en couple ouvert. Il aurait très bien pu mentionner à l'autre personne qu'il avait déjà quelqu'un et me mentionner à moi qu'il voyait quelqu'un. Mais il avait cette peur-là de le dire. Et en fait, probablement que ça l'excitait, l'interdit. Mais il s'est fait prendre à son propre jeu. On l'a découvert. Puis, mais finalement, l'autre personne a clairement dit « Hein, j'aurais tellement aimé ça, moi, être en couple ouvert. » Mais elle oublie ça, c'est un menteur, ce gars-là.
C'est ça.
Elle l'a vu. Il avait peur de passer.
Mais toi, tu le savais au début. Je veux dire, tu t'es embarqué dans cette relation-là. Tu le savais que le gars, il avait été infidèle. Il avait commis l'adultère à plusieurs reprises.
Mais là,
pourquoi tu t'es embarqué là-dedans encore? C'est l'amour.
Probablement que je voyais un potentiel dans la relation et en me disant, on est couple ouvert, il n'y aura pas de trahison. On est couple ouvert, donc il va pouvoir aller ailleurs en me le disant finalement. Donc, il n'y aura pas à me le cacher.
Puis tu aurais bien vécu avec ça?
Ben oui, parce que d'un autre côté, cette personne-là est une personne qui n'avait pas une énorme libido. Okay? Donc, moi, je pense que à partir du moment où on ouvre son couple, c'est parce que le couple en tant que tel est quand même... Ma vision du couple ouvert a vraiment évolué. Là.
Ouais,
vraiment. Donc, je pense que si tu vas vers d'autres personnes, c'est que tu as des besoins différents à combler et que tous les deux être consentants là-dedans. Parce que d'être en couple monogame avec une seule et unique personne toute ta vie, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, vos besoins vont peut-être différer puis ils seront peut-être pas tous comblés. Et c'est à partir de là où vous dites, moi, je reste fidèle à la relation et on reste monogame ou on ouvre à la relation ou je deviens infidèle à la relation.
Je dis chambranlant, mais on dirait que je suis pas certain de cet énoncé-là. Peut-être que oui, il y a certains couples qui s'ouvrent parce qu'ils sont chambranlants à l'intérieur du couple, puis ça va pas super bien. C'est comme
C'est une mauvaise idée.
C'est une façon de mettre un baume là-dessus, mais à la base, je pense que c'est plutôt une question de besoin, comme tu le dis.
Mais oui, exactement.
C'est ton chum ou ta blonde ne peut pas t'offrir ce que tu as besoin, fait que tu vas le chercher ailleurs tout en préservant l'harmonie de la relation que vous avez ensemble.
Exactement. Donc, nous, notre entente, c'était ça en partant. Donc, on a commencé notre relation en couple ouvert. Chose qui n'était pas une bonne idée. Je crois que avant d'ouvrir son couple, on devrait vraiment être un couple solide, une team forte, avoir une intimité.
C'était-tu une relation à proprement dit ou c'était plus du calibre fuck friend rendu là?
Écoute, on était des amis depuis presque 10 ans, moi et cette personne-là. Il m'avait déjà fait des déclarations dans les années précédentes, puis justement, par son infidélité, je me disais « Non, je pourrais jamais être en couple avec toi, c'est impossible, tout ça. »
T'es pas fiable.
Finalement, est arrivé un moment où on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Puis c'était pas mal ma seule personne que je voyais à cette époque-là. Et mon amant dominant que j'avais avec qui je pratiquais du BDSM. Et lui, le BDSM, puis les trucs un peu kinky, ça ne disait rien, mais du tout. Puis il n'avait pas une forte libido non plus. Donc, lui était bien ouvert à ce que j'aille un autre partenaire. Mais finalement, je ne suis même pas allée parce qu'on dirait que lorsque je suis bien avec quelqu'un, même s'il ne comble pas tous mes besoins, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Donc, j'avais la possibilité d'y aller.
Mais tu n'y allais pas.
Mais j'y allais pas. Même si mon besoin... Ben, en fait, c'était même pas un besoin.
C'est souvent ça, en fait. Là. C'est souvent plus d'un bord que de l'autre dans un couple ouvert.
Effectivement. Mais ça m'allait. C'est juste que là, ben... Puis lui, c'était même pas... Tu sais, il n'y avait pas plus de relation avec cette femme-là. Là. C'était juste un besoin de séduire. Puis il y a des hommes qui sont comme ça, hein, qui aiment séduire, qui aiment savoir qu'ils plaisent, sans avoir besoin nécessairement de passer la ligne.
Le flirt,
le jeu, la séduction et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hey,
c'est une dope,
qui
n'ont
pas envie. Ben,
c'est
oui,
une dope, mais c'est exactement. Enivrant, un point incroyable.
Ça, je veux qu'on en parle éventuellement avec un expert là-dessus, parce que c'est un lien avec la sérotonine directement.
Ben, t'appelleras ton ami, il y a de l'air bon là-dedans.
oui, c'est ça. Vous le connaissez.
Mais, ah bon, OK. Bon, je poserai pas de questions.
Mais c'est ça. Puis, tu vois, là, je suis présentement dans une relation où je me sens comblée complètement. Puis, mais je sais qu'à un certain moment ou à un autre, un ou l'autre va être peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Mais ça va être là qu'on va décider si notre couple est assez fort pour dire, hey, on l'ouvre puis on se permet d'aller ailleurs ou non. C'est, tu sais, ça prend de la discussion. Puis,
ouais.
Moi, mes limites en ce moment, c'est monogame. Couple monogame. Mais ça veut pas dire que ça s'ouvrira pas éventuellement. Mais je pense que les couples. Tout couple qui veut s'ouvrir devrait d'abord et avant tout avoir une base très, 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 très solide avant de s'ouvrir, avant d'intégrer d'autres personnes. Vous devriez vraiment vous assurer que vous faites une bonne team, que vous avez confiance, le respect, tout ça. Sinon, si ça va pas bien puis que c'est pour mettre un baume ou pour mettre du piquant, on en a parlé souvent, vous risquez de vous en aller dans le mur. Puis de partir en couple ouvert dès le départ, à moins que vous soyez déjà du milieu libertin, que vous soyez très compersif et que vous soyez habitué avec cette philosophie de vie et cette façon de vivre-là, finalement, cette formule de relation-là, je pense que ça pourrait marcher. C'est ces deux personnes provenant du milieu libertin qui ont déjà été en couple libertin et tout, ou polyamoureux. Autrement, essayez-vous pas, là. Si tous les deux, vous venez pas du milieu, puis que c'est juste dans le but de peut-être s'éviter des blessures ou combler des besoins que vous n'avez pas et tout ça, ouais,
amen.
C'est pas une bonne idée.
Un gros amen. Mais avant de se rendre là, avant d'ouvrir le couple, il existe des petits jouets qu'on peut essayer. Puis là, je pense que toi, demain, tu vas me parler d'une affaire. Tu m'en as parlé brièvement tantôt, là, à micro fermé.
Écoute, j'ai testé et approuvé le Ouila double que Planetix m'a
offert.
C'est
comme le Ouija, mais pour les parties intimes?
Non.
Okay.
Pas du tout. Mais je vais vous en parler, en fait. Je pense qu'on va se garder un bloc complet pour ça parce que je vais faire un parallèle avec le Ouila, le Shallowing, l'orgasme féminin.
Okay.
Et à quel point ça peut vous aider, mesdames, à obtenir un orgasme vaginal avec votre partenaire. Cet outil-là, vraiment, c'est magnifique.
All right.
Ouais,
vraiment. On parle de ça demain?
Ben, c'est ça, là, j'aurais aimé ça garder un bloc complet, donc c'est plus le 3 avril, en fait.
Oh mon Dieu! Hey, tu nous titilles!
Ben, écoute, OK, je peux même vous parler de ça demain.
Ben, pas longtemps, là.
Ouais, OK, on va faire un petit bloc là-dessus.
Est-ce qu'on sonde les auditeurs? Voulez-vous que Mel en parle demain, oui ou non? Les réponses après la pause, c'est-à-dire demain.
OK, on va en parler demain, c'est bon, je vais l'apporter. Je vais vous faire vibrer ça des oreilles.
Oh,
mais,
wow,
non, non, mais c'est vraiment, ça a été extraordinaire. J'ai d'ailleurs fait un petit live TikTok là-dessus, j'ai été bannie parce que je l'ai montré à l'écran.
Ils t'ont banni combien de temps?
7 minutes.
Hey, c'est un gros ban, ça.
Hey, c'est n'importe quoi.
Ils t'ont banni ça.
Ils m'ont banni ça, mais c'est comme tu tapes tes doigts. Hey,
c'est pas ça, banni.
T'as fait quelque chose de pas correct.
Ouais, c'est quoi, c'est
t'es
ça?
T'es banni. Là, je suis comme... Puis là, ça a dit à mes utilisateurs, tu sais, que j'avais montré du
c'est pas ça, banni quelqu'un, 7 minutes.
Ouais, c'est ça. Fait que 7 minutes plus tard, je suis revenue.
Ah, OK.
Et puis...
Avec le dildo encore des mains.
Non, là, j'ai différents trucs, là, maintenant, pour présenter les jouets. Là, ça va être dans des bocales et tout, là. Ça va être...
Dans des bocales?
Je vais peut-être les cacher dans l'image. Chercher trouve.
Hey, misère. Bienvenue en 2024, groupe.
Ah, ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'est déjà la fin, mon Dieu. Ça passe à la vitesse de l'éclair. Encore une fois, ce show-là. Merci, merci, merci d'être avec nous. Merci, Max.
Merci à toi.
On t'adore, je t'adore et c'est toujours
un plaisir
de travailler avec toi.
Moi aussi, je t'adore.
C'est vraiment le fun. Donc, vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice et demain, Marc Gervais, le conférencier, le spécialiste des célibataires qui sera en onde avec nous par téléphone, en fait. Il sera pas en studio avec nous, mais on va l'avoir en entrevue. Donc, ratez pas ça. Marc Gervais, qui est une sommité dans le milieu du célibat. Donc, ça risque d'être fort intéressant.
Ça promet.
ça promet. Vous étiez à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.